Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux. Clé de voûte, c'est le podcast Product pour celles et ceux qui bâtissent les futurs produits indispensables de demain. Qu'ils soient entrepreneurs, product managers, designers ou tech, c'est ensemble qu'ils avancent pour transformer l'essai en réussite. Alors chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés de ces personnes-là, celles qui révolutionnent leurs industries. Ma mission ? Te dévoiler les coulisses et te permettre de comprendre leurs stratégies, leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir à ton tour la clé de voûte de ton entreprise. Que tu sois entrepreneur, product, tech, designer ou juste curieux, attrape de quoi noter et installe-toi confortablement. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Dans cet extrait, je reviens sur un point essentiel évoqué avec mon invité. Si le passage t'a plu et que ça t'a donné envie d'écouter l'épisode en entier, tu pourras y accéder directement dans la description. C'est aussi le moment de te parler de Stellar, l'entreprise derrière ce podcast. Je l'ai cofondée pour accompagner les dirigeants de start-up à transformer leurs produits en moteur de croissance. Car oui, votre software n'est pas un centre de coûts, mais bien un centre de profit, tout comme le marketing et les sales. Pour faire ça, on a réuni 15 CPO qui ont fait le succès des plus belles start-up tech comme Zenly, Blablacar, Spendesk et bien d'autres. Nos CPO accompagnent les dirigeants de start-up dans des programmes ultra rapides et clés en main pour atteindre leurs objectifs business. Fini les méthodes toutes faites et l'intervention de consultants, vous avez à vos côtés des hommes et des femmes de terrain compétents et motivés. Ensemble, nous avons accompagné plus de 40 clients comme Zelic, EduSign, Cobra ou la scale-up américaine Fountain. Si tu es dirigeant CPO ou CTO et que tu souhaites aussi faire de ton produit un moteur de croissance, on a forcément des choses à se dire. Je te donne rendez-vous en description d'épisode pour un audit gratuit de 30 minutes où tout sera passé en revue. Allez, on écoute l'extrait du jour.
Tu as parlé tout à l'heure de la façon dont vous vendiez la solution. On a dit en intro qu'on qualifierait Upflow d'un produit tu vois, qui est vendu en mode Product Assisted Sales. Donc en gros, c'est vous faites les ventes. Et, je veux bien d'ailleurs que tu décrives ce que c'est. Comment tu vois ça, toi, ce terme de Product Assisted Sales?
Oui, carrément. Alors, Product Assisted Sales, c'est un concept qui est arrivé après la grande époque d'un autre terme qui avait fait couler beaucoup d'encre, qui était Product-led. Product-led Sales. C'est-à-dire que c'était l'époque où... c'était la grande époque des Calendly et de ces outils-là, où en gros, tu avais des boîtes absolument monstrueuses qui s'étaient faites... sans équipe sales, où en gros, tu avais product-led growth sur lequel tu avais growth ou sales, mais effectivement, à la fin, j'ai toujours mon prisme sales qu'il faut vendre, mais effectivement, product-led growth sur lequel, on essayait de se dire, c'est super, on a force plus besoin de ce commercial infernal qui t'appelle, qui doit faire une démo de ton produit, machin, etc. Et au contraire, ça va être un aspect qui va notamment beaucoup travailler sur la viralité, sur des boucles de conversion, etc. Et c'était magnifique. Nous, on s'est rendu compte assez vite, on espérait beaucoup faire quelque chose comme ça. On avait la chance avec Upflow. Upflow, c'est quand même un produit qui a une très grande chance, qu'on n'a pas trop réussi à convertir pour l'instant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est chouette, c'est que notre produit, quand on le vend à une personne, tous ses clients voient une partie de notre produit. Quand une société utilise Upflow pour relancer ses clients, même si c'est la société elle-même qui le fait, c'est jamais une relance qui vient d'Upflow, et Upflow est assez... transparent dans l'expérience de tous les utilisateurs, à la fin, tu es quand même sur un portail de paiement qui est un portail Upflow. Tu vas interagir avec le produit Upflow. Et aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'utilisateurs dans le monde. On est mid-market, on n'est pas sur des milliards d'utilisateurs, mais par contre, on a plusieurs millions de personnes qui passent par nos portails tous les jours. Donc nous, on s'était dit, à l'époque, quand on a démarré, on s'est dit, c'est génial, on va vendre ça à 10 clients, et puis ensuite, le feu va prendre. Tu vois, ça va être juste, on va regarder tourner les compteurs, on n'aura pas besoin d'équipe sales, etc. Et ça n'a pas du tout marché. Et alors peut-être parce qu'on n'a pas été très bon et qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner ces boucles d'activation de viralité sur le PLG, mais il y avait aussi un aspect, c'est que, qui moi reste assez clair aujourd'hui, c'est que nous on vend à des directeurs et directrices financières qui sont des gens qui gèrent des entreprises dans notre type qui font entre 10 et 500 millions de revenus annuels. C'est pas des gens qui le dimanche après-midi sur leur canapé disent tiens, ça a l'air sympa ce produit, je vais le connecter à toute ma stack financière qui est extrêmement confidentielle et avec des données qui sont critiques. Et donc, il y a quand même encore aujourd'hui besoin d'un accompagnement, notamment quand tu évangélises le marché. Parce que aujourd'hui, ça y est, en France, Upflow, les gens dans la sphère financière, ils connaissent. Mais il y a 5 ans, personne ne nous connaissait. Donc, quand on ne connaît pas, et aujourd'hui aux US, personne ne nous connaît encore. On nous connaît un tout petit peu. Mais, et quand tu ne connais pas, tu ne te dis pas, tiens, c'est marrant, je vais me connecter. Et donc, le product assisted sales aujourd'hui, c'est une démarche, c'est ce qu'on a expliqué à l'instant, c'est de se dire, tu as une démarche commerciale qui est standard, donc nous par exemple on fait beaucoup d'outbound, on va démarcher les gens, on va les appeler, on va essayer de le faire avec beaucoup de valeur ajoutée, mais à la fin ce qu'on essaie de faire c'est d'aider à apporter de la valeur dans le process de vente avant que les gens sign up pour le produit grâce au produit. Donc là, l'un des exemples, c'est qu'on a un produit gratuit qui s'appelle Discover. Ce produit gratuit, souvent, quand tu vas booker une démo avec Upflow, donc on pourrait te montrer de la donnée sur un compte de démo en disant « Regarde, c'est incroyable, ils ont fait des choses fantastiques, etc. » Mais plutôt que de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur ta propre donnée. Donc l'entreprise Lattice, par exemple, qui est un de nos power users aux US, ils vont prendre une démo et puis notre commercial, ils vont dire « Ah, ben, on a une démo ensemble demain, on a prévu 30 minutes. Est-ce que vous pouvez juste cliquer ici et vous connecter pour synchroniser votre donnée ? Comme ça, on va pouvoir regarder la donnée ensemble. » Et donc, du coup, tu vas avoir une démo qui est beaucoup plus intéressante parce que, bah, au lieu de vendre à Timothée un produit qui va peut-être faire des miracles dans le futur, là, ce que je te dis, c'est on va regarder ensemble comment fonctionne ton entreprise, comment est-ce que ça se compare par rapport à des benchmarks de marché, ce qu'on a vu chez d'autres utilisateurs qui étaient similaires, mais en se basant sur ta propre donnée, ton propre contexte, plutôt qu'un contexte qui est un contexte de démo ou des slides ou ce que tu pouvais faire un peu dans des slides plus enterprise avant. Et donc on est un peu hybride sur ce modèle, c'est pas la vente à l'ancienne au téléphone avec rien et etc. On n'est pas non plus un modèle full PLG.
Indépendant, vous voilà. Êtes sur les deux quoi.
Et en fait un peu entre les deux et c'est un modèle qui marche bien sur le mid-market parce que en gros nous on vend nos paniers moyens aujourd'hui c'est entre 10 000 et 100 000 dollars par an tu vois, donc tu vas payer ces prix-là. Et donc, c'est un prix qui est suffisant pour qu'on puisse justifier le fait d'avoir des commerciaux qui soient au téléphone, etc., et consacrer du temps. Ce que tu ne peux pas faire si tu es sur des plus petits paniers sur lesquels tu dois changer ton modèle de distribution. Et ça, c'est une grosse réflexion très importante qu'on n'avait pas trop eu au début, de savoir où est-ce que tu te positionnes en termes de distribution, de panier moyen, etc., et ce que tu peux faire en fonction de ça. Voilà.
Comment t'alignes ce process de vente avec ton produit. Et quand je dis le produit, c'est pas que le produit Upflow, c'est aussi toute la team product. Comment ça se passe pour faire évoluer le produit comme ça ?
Écoute, ça vient de beaucoup d'erreurs. En fait, faut être réaliste. Hein. Ça vient de beaucoup d'erreurs et de trial, c'est-à-dire de passer ton temps à tester quelque chose, le recommencer, réajuster ce qui se passe, etc. Les premières versions du produit, tu vois, je te disais... À l'époque, on n'avait même pas d'intégration native. Donc, tout le process que je suis en train de te décrire, il était impossible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire, tiens, regarde, envoie-moi tes 10 000 factures et puis on va reconstituer ton truc, comme ça, on fera la démo demain. Impossible. Aujourd'hui, on le fait parce qu'on est sur une intégration native. Mais en gros, les décisions qui t'amènent à dire, bon, bah, en fait, on va arrêter de faire de ce qu'on appelle de l'invoice pipeline, donc avoir des pipelines d'intégration de données, et on va plutôt se focaliser sur des intégrations natives, je veux dire que ces décisions pour la boîte, c'est méga dur. Parce que tu as des utilisateurs qui sont très heureux sur cette version-là du produit. Ils te disent, mais ça va très bien, c'est génial, nous on est ravis et tout. Oui, on est ravis, mais nous en fait, on a 5 personnes dans notre équipe Ops qui se mangent de ramasser des PDF parce que le PDF a changé, je ne sais pas quoi, etc. Donc un jour, tu les appelles et tu leur dis, bah, en fait, on est désolé, mais on va arrêter cette version-là du produit. Et si vous n'utilisez pas, j'en sais rien, QuickBooks par exemple, pour donner l'exemple que je te donnais tout à l'heure, bah, en fait, malheureusement, désolé, mais Flow, ce n'est plus pour vous. Donc comment tu fais ? Bah, déjà, tu prends des décisions et ça, c'est difficile. Parce que quand il faut faire des pivots sur ce genre de décision qui notamment touche au sacro-saint revenu et que tu vas faire du churn proactif, t'as beau avoir Y Combinator qui te dit dans son playbook que c'est hyper important de churner proactivement tes customers, you need to fire your customers, et c'est ce qu'ils disent, you sometimes need to fire your customers, ben c'est difficile. Parce que moi je peux te dire que mon premier client ça a été... vraiment la sueur pour aller les chercher, pour voilà. Donc ça c'est un des premiers trucs, c'est d'arriver à prendre des décisions qui sont assez, parfois assez radicales, de pas trop prendre de temps pour les prendre. Nous on a mis trop de temps pour prendre les premières décisions un peu radicales sur ces aspects de distribution, et de constamment, et ça c'est un des sujets, c'est pour ça que je suis content d'être invité sur ton podcast, c'est d'arriver à casser la barrière entre business et produit, tu vois. Et c'est constamment, je veux dire, on est...
Parlons-en, c'est quoi ? Il y a des rituels en place ? Il y a des choses que tu infuses dans la boîte ? Comment tu fais ?
Déjà, pour commencer, d'avoir des fondateurs et des fondatrices qui naviguent entre les deux environnements, c'est hyper important. C'est-à-dire que nous, avec Barnaby, mon associé, qui gère la partie produit, justement, on est constamment en échange, on est constamment en train de... Tu vois, j'ai vraiment eu cette chance, quand on s'est rencontrés, d'avoir un cofondateur produit qui est passionné par les enjeux business, et moi je pense d'être passionné par les sujets produits. Et c'est rare, tu vois. Je vois souvent des gens qui disent, ouais, attends, moi je m'occupe des sales, toi tu t'occupes du produit, et puis ensuite on s'échangera des Notion pour dire ce dont on a besoin. Mais en fait, cet alignement-là, il est absolument crucial parce que, en fait, surtout au début, quand t'as peu de temps, peu d'énergie, peu de ressources, t'as beaucoup d'énergie en général, mais t'as peu de ressources.
Un peu moins de temps plus tard.
Et, ouais, exactement. Et tu effectivement, il faut vraiment arriver à avoir cet ajustement-là qui est très fort. Nous, on essaie vraiment de faire en sorte que notamment l'équipe produit passe beaucoup, beaucoup de temps avec les équipes business. Ça, c'est un sujet qui est super important. Nous, on a un gros... aujourd'hui, on a presque un tiers de l'équipe qui est à New York, qui fait uniquement du go-to-market, donc de la distribution, du service client, etc. Parce que c'est là où est notre gros, gros marché. Par exemple, on essaie beaucoup d'envoyer les gens du produit dans ce bureau-là pour vraiment passer du temps à comprendre les enjeux. On utilise des outils qui sont hyper puissants. Nous, quand on a mis en place Gong chez nous, ça a été vraiment le jour et la nuit en termes de retour pour les équipes produits, parce que justement de pouvoir, tu vois, regarder toutes les démos, comprendre les retours des utilisateurs, etc. C'est des choses qui étaient très importantes. Et l'un des aspects dont on parlait tout à l'heure, je pense aussi qui est hyper important, c'est de prendre ce temps, quelle que soit la méthodologie que tu utilises, que ce soit des OKR, que ce soit parce que tu fais un offsite tous les 6 mois, etc. Mais de prendre du temps pour arrêter la machine et prendre du recul sur ce que tu es en train de faire. Et ça, tu vois, typiquement, de se dire, tu vois, de temps en temps, nous, on a des décisions, comme je te disais, des décisions drastiques, de se dire, bon, telle intégration, ça marche pas, on arrête. Si tu es dans ton day-to-day et que tu continues, tu prends jamais ces décisions.
Ouais.
De temps en temps, il faut dire, attends, pourquoi est-ce qu'on est en train de passer 50% de notre temps à traiter des tickets et des gens pas contents sur une intégration qui correspond aujourd'hui à 5% de nos revenus? On arrête. Mais tu peux pas le faire si tu es juste en train de regarder ton utilisateur qui hurle sur le service client ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est des aspects effectivement importants. Voilà. Après, j'ai pas de recette secrète pour la collaboration entre business et product. Je pense qu'il y a aussi un vrai sujet de culture de boîte qui est très très important, je pense.
Tu as dit en premier point, en deuxième point, pardon, je sais plus exactement. Je crois que c'est le premier point, que régulièrement, ton équipe produit allait faire un tour à New York pour être auprès des équipes commerciales. Il se passe quoi là-bas? Ils font quoi? C'est juste qu'ils se réunissent, ils viennent faire du shadowing, donc ils viennent écouter les calls, ils viennent participer aux calls. Comment ça se passe?
Ouais, ils participent aux calls. Moi, je crois qu'il y a un truc qui a été très, très dur après Covid, et notamment quand on a commencé à être tous en remote, etc., c'est que on a un peu vécu dans l'illusion de super, on peut tous être chez soi, à la campagne, les doigts de pied, tu vois, par un éventail, par on fait rien, mais de se dire super, en fait, on peut un peu travailler de n'importe où. Et nous, on en revient complètement, ça, aujourd'hui, de ce côté de, en fait, on n'est pas des... On ne se dit pas qu'il faut être tous les jours dans son bureau à regarder la pluie à Paris en se disant c'est horrible, etc. Mais ça n'empêche que, en gros, d'avoir des moments où on est ensemble au bureau, c'est hyper important. Et on a une équipe commerciale à Paris aussi qui vit au milieu de nos équipes product. Quand je dis product, c'est au sens large, avec le design, la tech aussi, ouais. Et en fait, on essaie vraiment d'organiser des rituels pour se retrouver ensemble au bureau parce que, en fait, c'est con, mais tu sors d'une démo, tu te dis, ah là là, je me suis fait, j'ai eu ça qui a été un problème, ça est vraiment génial depuis qu'on a ça, ça m'a permis de sauver tel truc. Et tout le monde se sent vraiment, je sais pas, aspiré par cette dimension de, on va dans la même direction. Donc, c'est pas forcément, nous, ce qu'on a chez Upflow, on a créé un exchange programme qui permet, quand ça fait plus d'un an que t'es chez Upflow, de te dire, tu peux aller passer un mois dans un autre bureau. Donc que ce soit New York ou Paris, ça permet aux gens de créer des liens forts entre les gens qui sont pas juste des liens de on a passé du temps sur Zoom nanana. Et donc ça permet d'apprendre à connaître les gens qui sont les gens de l'autre côté de l'organisation. Tu vois, on est 50 hein, chez Upflow, donc c'est pas non plus on se connaît tous, tu vois. Mais c'est pas pareil, je trouve, de connaître le prénom de quelqu'un que de te dire tiens, j'ai compris ses enjeux, j'ai compris ses contraintes, à la fois côté business, j'ai pas réussi à vendre, tel client a churné, ou je suis ingé, je suis product manager, on m'a demandé une feature list de 250 trucs. En fait, ça sert à rien de demander 250 trucs parce qu'on pourra pas tous les faire, donc dis-moi plus tôt, essaie de comprendre sur qu'est-ce qui va vraiment avoir de l'impact, pourquoi, etc. Et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de pousser dans les équipes en se disant, bien sûr, il y a toujours un CEO ou un CTPO qui peut toujours prendre la décision à la fin, mais d'essayer de passer ton temps à essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les gens autour de toi dans l'organisation, je pense que c'est un aspect qui est fort sur comment est-ce que tu travailles mieux ensemble et comment est-ce que tu arrives à mieux à être plus pertinent, quoi.
Il y a plein de boîtes où justement il y a ce fossé entre produit et sales. Alors attention, dans sales et produits, je mets, pareil que toi, un produit, je vais mettre tech, ouais. toutes les fonctions techniques qui servent à construire le produit. Sales, je vais mettre aussi que c'est un support, ouais. peu importe ouais. la taille de boîte, ça va très loin après dans le nom des titres des jobs et je vais pas aller jusque là. Mais bref, il y a souvent un fossé qui se passe, voire des conflits. Moi, je le vois de manière très récurrente dans les boîtes qu'on accompagne en dehors et les boîtes avec qui je discute. Et y a toujours ce truc de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces gens, en fait, ils comprennent qu'ils sont en train de construire la même chose, c'est-à-dire une boîte ensemble, ils contribuent tous à la croissance de cette boîte. Et donc, ils devraient, bien sûr qu'il peut y avoir des désaccords, évident, heureusement d'ailleurs, ils devraient tous avancer vers la même direction, main dans la main, tu vois. Est-ce que c'est tout ce que tu viens d'expliquer qui permet aux équipes tech et produits, et business, pardon, d'avancer dans la même direction, de pas trop se friter? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu as en tête quand je te dis ça qui te sont venus?
Ouais, encore une fois, je pense que j'ai pas la recette magique. Sinon, je pense que ce serait vraiment génial. Moi, je pense qu'il y a, déjà, je dis souvent à l'équipe, you don't know what you don't know. Donc, je sais pas comment ce sera quand on sera, si un jour on est 200 chez Upflow, ce sera sûrement ouais. très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Sûr, ouais. Par contre, à 50, quand tu connais encore tout le monde, je pense qu'il y a vraiment un aspect qui est souvent un peu sous-estimé parce qu'on adore se cacher derrière un peu le process, les éléments, te dire, attends, si ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas fait les bons OKR, etc. Ouais. Moi, je peux te dire que nos process de roadmap, ils vont jamais aussi. On fait un offsite une fois par an. On rassemble toute l'équipe, on fait venir les Américains en France, etc. On ne le fait pas trop souvent parce que on
ça
essaie d'éviter.
Cher.
Ouais, c'est plus cher. Et puis, on essaie aussi d'éviter de déplacer tout le monde. Mais les roadmaps, elles se font jamais aussi bien qu'après l'offsite. Quand tout le monde a passé du temps ensemble, et quand je te dis qu'ils ont passé du temps ensemble, on n'a pas fait des workshops pendant et des rétros pendant des heures, etc. On a passé du temps ensemble. Le dernier offsite, je pense que le meilleur moment de relationship tout le monde, c'était la soirée qui s'est finie de manière complètement inopinée en grande soirée karaoké, où il y avait Hugo, qui est un de nos IL, qui avait sorti qui DJ le week-end et qui a sorti son setup. Et puis il y avait Vanessa, notre customer success, qui, on ne savait pas, est une. Enfin, juste chantait trop bien. Bon. Et c'est des moments en fait c'est des moments où on se rassemble, c'est des moments où en fait on comprend qu'en fait on va dans la même direction. Et je pense que c'est notre rôle de founder de créer cette unité en fait au sein de l'équipe, que ce soit à la fois dans la vision, tu vois, moi c'est un truc qu'on passe beaucoup de temps à faire, essayer de répéter tout le temps la vision de qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le start with why, où est-ce qu'on en est, le how du moment. Et de savoir comment est-ce que le what, donc notre produit qu'on est en train de construire aujourd'hui, comment est-ce que ça s'aligne là-dedans, et d'essayer que tout le monde comprenne, nous on utilise OKR pour le faire, mais d'essayer de comprendre comment est-ce que moi je me positionne dans cet ensemble de 50 personnes. Et d'essayer de se dire, quand, encore une fois, c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, quand les gens ne sont pas contents, quand ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est qu'à la fin, on a loupé notre mission de fondateur, d'arriver à se dire... j'ai pas réussi à faire comprendre à deux morceaux de la société ou de l'organisation qu'en fait on travaillait pour la même chose. Si j'ai pas fait mes chiffres, c'est pas parce que j'ai pas envie de faire mes chiffres, c'est parce que j'ai été bloqué, soit parce que j'ai pas le bon enablement, j'ai pas le bon produit, on n'est pas sur le bon marché. Et si j'ai pas shippé 150 000 features en plus, c'est juste parce qu'on a des contraintes et qu'il faut qu'on priorise. Et ça. Et je veux dire, souvent, on a un peu l'impression que c'est toujours aux fondateurs et fondatrices de décider de ça. En fait, tout le monde peut le comprendre. Et encore plus quand t'es 50, enfin, grand d'une taille, tout le monde se connaît. Et c'est notre travail d'arriver à faire ça. C'est difficile.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite !